Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, le tour de l'actualité sportive. Ce sera Sportorama, présenté par Nicolas Pinault. Mais d'abord, un point de l'actualité. À Libreville, au Gabon, le domicile de l'opposant Jean Ping a été attaqué, cité par l'AFP. Il affirme que les assaillants étaient une bande de 200 jeunes affiliés au régime. Ils sont venus nous agresser à coups de cailloux. Ils ont allumé un feu, cassé les vitres, explique l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Jean Ping accuse la gendarmerie de ne pas être intervenue. Nous avons alerté des militants qui ont livré bataille, poursuit-il. Ces jeunes auraient été déshabillés et mis en caleçon par les militants avant d'être mis à la police judiciaire qui s'est rendue sur place. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram a attaqué ce lundi une base militaire de Kolofata dans le nord-ouest du Cameroun. L'attaque a visé le quartier administratif où se trouve la sous-préfecture, la gendarmerie et le camp d'une unité de l'armée selon la police camerounaise dont s'est fait écho l'AFP. Aucun bilan de l'attaque n'était disponible en début d'après-midi. Burundi, la mission d'observation électorale de l'ONU, la MINUB, a officiellement débuté ses travaux aujourd'hui à Bujumbura, une inauguration qui s'est toutefois déroulé en l'absence de représentants du gouvernement en raison de divergences sur la finalité de cette mission. Par ailleurs, le congrès du parti burundais d'opposition Mouvement pour la solidarité et le développement a choisi son président en exil, Alexis Sindouigé, comme son candidat à la présidentielle de juin 2014. La France a décrété ce lundi la mobilisation de milliers de soldats et policiers pour parer à la menace de nouveaux attentats. C'est au lendemain d'une journée historique de manifestation contre le terrorisme. Idriss Fall.
Sur ordre du président François Hollande, 10 000 soldats seront déployés à partir de mardi soir sur des points sensibles du pays, d'après Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. La moitié de ces policiers et gendarmes seront affectés à la protection de 717 écoles et lieux de culte juifs. D'ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui était à la marche hier, s'est rendu aujourd'hui au supermarché Kacher où 4 juifs ont été tués vendredi pendant une prise d'otage. Hier, Paris a été le théâtre d'une manifestation historique avec plus d'un million de personnes, dont 6 présidents africains parmi la cinquantaine de dirigeants venus du monde entier. Le premier ministre français Manuel Valls a assuré ce lundi que la traque se poursuit pour retrouver d'éventuels complices des 3 djihadistes qui ont fait 17 morts la semaine dernière à Paris.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cuba a libéré 53 prisonniers politiques selon le gouvernement américain. C'est l'accomplissement d'une promesse faite en décembre dernier lorsque le président Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont simultanément annoncé des efforts visant à normaliser les relations entre Washington et La Havane. La section des intérêts américains dans la capitale cubaine a pu vérifier que les prisonniers sont bel et bien en liberté, a déclaré un officiel américain aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain John Kerry est à Islamabad pour des entretiens avec le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. La visite de M. Kerry n'avait pas été annoncée publiquement. Lionel Gaïma.
Il s'agit pour le chef de la diplomatie américaine, qui effectue une tournée d'une semaine en Asie et en Europe, de discuter de la prochaine réunion ministérielle sur le dialogue stratégique entre les États-Unis et le Pakistan. Selon un haut responsable du département d'État américain, ces discussions seront d'une importance cruciale pour faire avancer le combat commun contre l'extrémisme en resserrant la coopération antiterroriste entre Washington et Islamabad. Le mois dernier, une attaque de talibans a fait 150 morts dans une école de Peshawar. John Kerry doit se rendre aussi en France pour exprimer la solidarité des États-Unis après que l'administration Obama a été critiquée pour n'avoir envoyé aucun représentant de haut rang à la grande marche contre le terrorisme hier à Paris.
Et dans le reste du monde, progrès important dans les opérations de recherche de l'avion d'Air Asia. Des plongeurs de la marine indonésienne ont repêché l'une des boîtes noires. Après analyse, elle pourrait fournir des informations sur les causes du crash. Toutes les 162 personnes à bord ont trouvé la mort quand l'Airbus s'est abîmé dans la mer de Java. C'était le 28 décembre dernier. Et puis on termine avec cette nouvelle de sport. Ronaldo, Ballon d'Or 2014. La nouvelle vient donc juste de tomber et les développements, c'est tout à l'heure dans Sportorama. Ce sera avec Nicolas Pinault.
Dans les journaux, Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce Sporama bananée sportive à tous les fidèles de VOA. Comme tous les lundis soirs dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook. Le lien, c'est VOA Afrique et nous attendons vos appels en direct. Vous pouvez composer le 001-202-619-31-40. Avec nous ce soir, nous allons saluer à Libreville Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va faire un grand coucou depuis Boïcon au Bénin. Élisée Ngoupatine, bonsoir.
Bonsoir Nicolas Pino et bienvenue à votre Bénin.
Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, on est là pour 25 minutes pour parler de sport. L'information qui est tombée il y a quelques secondes sur la planète football, Cristiano Ronaldo, c'était attendu, le favori de ce Ballon d'Or 2014. Eh bien, le footballeur portugais qui a remporté ce trophée. Évidemment, félicitations à lui. On va revenir sans plus attendre sur ce trophée qui vient d'être décerné il y a quelques secondes à Zurich. Il y avait trois finalistes, évidemment. Il y avait également le grand Lionel Messi, petit par la taille, mais énormissime par le talent. Et le gardien, également allemand, Neuer. Eh bien, ces deux stars n'ont pas été récompensés. C'est Cristiano Ronaldo qui avait déjà remporté ce trophée en 2008 et 2013. Alors, quel est votre avis sur ce joueur exceptionnel? Évidemment, ça a été une année, encore une fois, exceptionnelle pour ce joueur de 29 ans, Élisée Ngoupatine.
Oui, vous l'avez dit, c'est un joueur énorme qui a réalisé une saison durant l'année en cours, l'année 2014, il faut le dire, puisque c'est une année civile que le joueur a été performant, il faut le dire, et il a mérité ce ballon d'or, c'est vrai. Plusieurs auront dit quand même que Manuel Neuer, puisqu'il a fait une saison remarquable du Bayern de Munich en remportant le triplé dans son championnat, et puis pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Mais Cristiano Ronaldo a été énorme avec plus de 50 buts inscrits durant l'année civile 2014, et également il a remporté la Copa del Rey, la Coupe du Roi en Espagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et surtout la Coupe du Monde remportée il y a cela quelques semaines du côté du Maroc. Eh bien, l'homme a largement participé à la réussite de son club durant cette année 2014. Mais c'est vrai qu'en équipe nationale, il a de difficultés, l'équipe nationale a beaucoup de difficultés, mais il a souvent sorti le grand jeu puisque lors des éliminatoires de la Coupe d'Europe qui aura lieu en France en 2016, eh bien, à chaque résultat ou bien à chaque victoire de la sélection portugaise, ne serait-ce qu'un seul but à marquer, eh bien, c'est Cristiano Ronaldo qui arrive souvent à s'illustrer. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai, il a mérité ce prix. On ne peut que le saluer.
Alors, Jules Valentin-Goué, est-ce que vous êtes heureux pour Ronaldo, déçu pour Messi?
Oui, mais disons que c'est surtout. La remarque principale, c'est que tout se joue sur un coup de dé. Bon, Ronaldo doit essentiellement son ballon d'or à la victoire du Real, une victoire obtenue à la dernière seconde pratiquement des arrêts de jeu du temps réglementaire et le coup de tête de Ramos qui a tout changé. Et nul doute que si l'Atlético avait gagné cette coupe, avec la Coupe du Monde, ni figue ni raisin, presque ratée de Ronaldo, c'est Neuer peut-être qui serait sur le toit de l'Europe actuellement. Bon, mais nous disons Ronaldo le mérite par son talent, par justement sa performance avec le Real Madrid, par ce palmarès dans l'année, mais aussi par l'effet business que constitue son look, son profil de star, qui n'a rien à voir avec le très réservé Messi et surtout le très pratiquement transparent Manuel Neuer.
Et oui, on va rappeler évidemment, notamment que Cristiano Ronaldo avait déjà reçu le prix du meilleur joueur UEFA 2014. Et puis surtout Cristiano Ronaldo qui n'est plus finalement qu'à un petit ballon d'or de Lionel Messi, qui a été quadruple lauréat entre 2009 et 2012. Alors, vous en parliez évidemment. Élisée Ngoupatine, quel est votre avis justement sur le portier allemand? C'est vrai que depuis Puskás, je reprends mes chiffres, depuis Puskás, c'était en 1963, il y a 52 ans déjà, aucun gardien n'a gagné ce ballon d'or. C'était difficile, même s'il a grandement contribué évidemment à la victoire allemande en Coupe du Monde, Neuer.
Oui, Nicolas l'avait dit, mais la différence qu'il y a entre 63 et 2014 aujourd'hui, c'est que deux grands joueurs, deux énormes joueurs, j'allais dire, extraterrestres, qui sont bien évidemment Cristiano Ronaldo, même si Messi ne faisait pas le poids cette année. En 1963, le russe Yachine faisait à lui tout seul 90% des victoires de l'URSS entre-temps. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il n'y avait pas tellement d'un joueur qui avait le dessus sur les autres. Donc, c'est-à-dire que cette différence, on la remarque durant cette dernière décennie. Donc, c'est-à-dire que ce serait très difficile pour Manuel Neuer de se faire différencier parmi ces deux joueurs, ces deux énormes joueurs, je précise, même si Messi ne faisait pas le poids cette année, mais Cristiano, je l'ai dit, il doit ce prix honorifique grâce à ce succès en Ligue des Champions. Moi, je vois aussi que durant la saison 2014, il a inscrit beaucoup de buts, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisque quand vous êtes attaquant, il faut se faire remarquer, il faut être précisément à droite durant les buts, donc devant les buts, j'allais dire. Donc, c'est ce que Cristiano Ronaldo a fait cette année. Manuel Neuer, même s'il gagnait ce ballon d'or, ne va pas crier scandale, puisque lui aussi, il mérite. Nous l'avons vu durant la Coupe du Monde. Il a fait une campagne mondiale remarquable. Il a permis donc à l'Allemagne de remporter cette Coupe du Monde. C'est vrai, ceux qui ont voté ont décidé autrement. Neuer aussi pouvait mériter ce ballon d'or.
Oui, puis on rappelle que la façon dont on vote a également changé, puisque maintenant il y a des entraîneurs, il y a évidemment des joueurs, donc c'est vrai que ça change également. Mais on va rappeler que Lionel Messi, pour le moment, en tout cas sur la Ligue des Champions, est entré dans l'histoire puisqu'il est le meilleur buteur avec 75 réalisations. On rappelle l'information de ce 12 janvier, Cristiano Ronaldo qui remporte son troisième ballon d'or. Et vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA ici à Washington. On va continuer en parlant des grands joueurs de cette année 2014. Retour sur le continent africain, Yaya Touré, roi d'Afrique. Le milieu de terrain ivoirien de Manchester City a encore été joueur africain de l'année. L'élection a eu lieu jeudi dernier à Lagos. Touré a égalé le record de 4 sacres du Camerounais, Samuel Eto'o. Mais surtout, il est le premier dans l'histoire du continent à être désigné 4 fois consécutivement par les 56 sélections ou DTN du continent. L'Ivoirien de 31 ans, grand favori pour ce prix, a été préféré à la star gabonaise du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et au gardien de but nigérian de Lille, Vincent Enyema. Pour en parler, un auditeur est en ligne depuis N'Djamena. Il s'agit d'Archeduc Théodore. Bonsoir.
Ouais, bonsoir la voix de l'Amérique, bonsoir à tous les fanatiques de la Ballon Ronde.
Alors qu'est-ce que vous pensez évidemment de ce sacre de Yaya Touré désigné par la CAF?
Voilà, Yaya Touré est un joueur ivoirien qui actuellement joue pour Manchester. Bon, c'est un joueur vraiment remarquable parce que moi je l'ai connu d'abord quand il jouait pour le club espagnol, pour Barça. Je l'ai connu, c'est quelqu'un qui a du talent. Quand on l'a vu sur Manchester, c'est celui qui se battait pour marquer des buts et pour arracher les balles, faisait des passes et défendre. Donc pour moi, actuellement, même si on ferme les yeux, on doit comprendre que Yaya Touré est le meilleur joueur africain et ce choix n'est pas biaisé, ce choix ne comporte pas des erreurs. Donc actuellement, sur le plan africain, la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure équipe. Et Yaya Touré mérite bien cette place et sur le jet de fer et que Dieu le protège.
Eh bien, merci beaucoup Théodore d'avoir été avec nous en ligne depuis N'Djamena. Merci beaucoup. On va prendre un autre avis direction Bamako au Mali où nous retrouvons un autre auditeur. Salif Diallo, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas.
Alors Salif, on sait maintenant évidemment que cette élection est à nouveau revenue pour Yaya Touré. 4e trophée, on le disait, illégal Samuel Eto'o, mais il est le premier dans l'histoire à remporter 4 trophées d'affilée. C'est vraiment le meilleur joueur africain selon vous?
Oui, il est de loin le meilleur joueur africain depuis maintenant 4 ans. On voit qu'il est devant tous ses concurrents. Maintenant, je crois qu'en Afrique, il y a carence de grands joueurs de son calibre. Parce que quand on voit Yaya Touré et ce qu'il réalise en Europe et à travers le monde, c'est un grand joueur par son talent, par ses résultats. Mais malheureusement pour l'Afrique, je le disais, Yaya aujourd'hui il est devant tout le monde et le continent africain n'a plus de grands joueurs exceptionnels comme lui Dans le temps, on en a eu. Il y a eu des Drogba, il y a eu des Samuel Eto'o, des Michael Essien, des Frédéric Oumar Kanouté. Chacun de ces joueurs-là, quand il se faisait nominer, il y avait de la concurrence. Mais aujourd'hui, avec Yaya Touré, je crois que le monsieur, il est largement devant tout le monde. Quand on voit cette année, il y a Aubameyang, mais Aubameyang ne fait pas le poids devant Yaya. Encore moins Vincent Wanyama. Je n'ai rien contre le talent de ces joueurs, mais c'est que Yaya, aujourd'hui, il est devant largement tout le monde. Et ce qui nous fait vraiment très peur aujourd'hui, parce que des joueurs exceptionnels se font rares en Afrique. C'est vrai, il y a des talents émergents comme les Diafara Sakho. Ne citer que lui. Vraiment, je trouve qu'en Afrique aujourd'hui, on doit réfléchir beaucoup à la formation de ces joueurs pour que dans l'avenir, il puisse y avoir des grands joueurs qui ont été des Samuel, des Didier Drogba, des Frédéric Oumar Kanouté ou bien des Michael Essien. Tel est mon point de vue aujourd'hui. Bon, je pense que si je ne m'abuse, ça doit être largement partagé par beaucoup d'auditeurs aujourd'hui.
Merci beaucoup, Salif, d'avoir été depuis avec nous à Bamako. On va poser la question évidemment à Jules Valentin Ngoué. Jules Valentin, imbattable, Yaya Touré, évidemment, sur le continent africain depuis 4 ans.
Oui, comme l'a dit l'auditeur, Yaya Touré profite presque d'un désert de talent autour de lui. Et il est à l'heure actuelle incontestablement le meilleur joueur africain de sa génération. Et par rapport à cela, son talent pur n'est nullement remis en cause. On trouve rarement un joueur qui est en principe formé pour la récupération dans un rôle de récupérateur et se transformer selon les positions sur le terrain, soit en passeur, soit en accélérateur de jeu et même en buteur dans la surface de réparation, notamment très dangereux dans les balles aériennes. Donc c'est une sorte de mutant qui nous rappelle dans un passé très lointain le Camerounais Mbappé Lippé, premier champion d'Afrique des clubs avec l'Orix de Douala en 1964. Et le Brésilien Didi, qui était aux côtés de Pelé et pour les Coupes du Monde gagnées en 58 et en 61. Même gabarit, même talent, même technique insoupçonnable pour de telles mensurations. Donc je crois qu'il le mérite, mais seulement nous remettons en cause un peu les critères choisis. Le Ballon d'Or, c'est sur une année et on devrait un peu plus tenir compte du palmarès et de l'année. Et à ce niveau-là, vous connaissez mon opinion, l'Algérie a été l'équipe qui a la plus brillée. Je crois qu'elle aurait pu être aussi récompensée.
Bien sûr. Et question peut-être un peu polémique pour Élisée Oumpati Naboïko au Bénin. On se souvient qu'Yaya Touré a déclaré cette année « Si je n'étais pas noir et africain, je serais certainement Ballon d'Or ». Est-ce que vous pensez que le fait qu'il soit africain, ça diminue un peu ses belles prestations au vu du grata du football? On parle souvent des Ronaldo et des Messi, mais c'est vrai que Yaya Touré est quand même la star africaine depuis 4 ans. On peut s'étonner qu'il ne soit jamais présent dans les 3 derniers finalistes du Ballon d'Or FIFA.
Oui, c'est une grande déception, puisque il mérite de faire partie des 3 derniers nominés, puisque lui-même, il a dit, figurez-vous que Zinedine Zidane a concocté une équipe de l'année 2014, et imaginez que Yaya Touré fait partie de cette équipe. Mais laissez-moi vous dire que c'est prix honorifique, c'est pur marketing. Et je vois très peu un joueur africain figurer parmi ces 3 derniers nominés. Samuel Eto'o l'a côtoyé en 2006, pendant que l'homme a œuvré pour le titre final en Ligue des Champions, je rappelle, avec le FC Barcelone, au moment où on donnait ce prix à Ronaldinho. Samuel Eto'o pouvait être deuxième sur la ligne, mais voilà, ça on a décidé autrement. Mais c'est un prix purement marketing. On se rappelle du dernier mondial où Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde.
Tout à fait.
On savait qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui pouvaient remporter ce prix. Vous voyez, Adidas en a décidé autrement. Donc aujourd'hui, un Africain, c'est vrai, George Weah, les gens vont dire que George Weah avait remporté en son temps, mais George Weah évoluait du côté du Paris Saint-Germain. On savait que c'était France Football qui donnait ce prix. Aujourd'hui, Yaya Touré méritait largement de figurer parmi les 3 meilleurs de ce prix France Football. N'oublions pas que que c'est un milieu récupérateur qui arrive finalement. Et je vais dans le même sens que Julien, puisqu'il a parlé de Mbappé, le PO encore de Didi, mais il a aussi oublié Marc Vivien Foué qui a même carré que Yaya Touré. Donc c'est-à-dire que Yaya Touré, aujourd'hui, c'est incontestablement le meilleur joueur africain durant cette année 2014. Il a inscrit 17 buts depuis janvier 2014 en novembre 2014. Donc c'est dit que pour un milieu récupérateur, c'est énorme. Yaya Touré aurait pu figurer parmi le trio final de ce prix honorifique France Football FIFA.
Voilà, on le rappelle, hein, Yaya Touré, roi d'Afrique, sacré la semaine dernière à Lagos par la Confédération africaine de football. Ouvrons à présent cette page Cannes 2015. Coup d'envoi samedi en Guinée équatoriale. Le Nzalang national affrontera le Congo en match d'ouverture. Les dernières nouvelles ce soir de cette compétition, victime d'une élongation, Fakhreddine Ben Youssef, le nouvel attaquant du FC Metz, a été contraint de déclarer forfait avec la Tunisie. Et puis rassemblé en Afrique du Sud pour préparer cette Cannes, les étalons du Faso ont été croisés samedi le Swaziland 5-1. C'était à Nelspruit. Et on va parler à présent, on l'avait fait la semaine dernière avec le groupe A et le groupe B. Parlons à présent du groupe C, celui que l'on nomme le groupe de la mort, avec les mondialistes, les Algériens et les Ghanéens, mais également le Sénégal qui revient en forme, entraîné par Alain Giresse, et également l'Afrique du Sud. La Tunisie et l'Algérie n'ont pu se départager un partout, c'était dimanche à Rades, lors d'un match amical. L'Algérie a terminé à 10 suite à l'expulsion de Kadamouro, c'était en fin de première période. Alors, Jules Valentin Gouet, groupe de la mort, ça je crois que c'est une certitude. Vos favoris là-dessus, est-ce que vous partez plutôt sur un scénario classique avec les mondialistes Algérie-Ghana ou pourquoi pas la surprise sénégalaise?
Non, mais là, mon avis, il est clair. Pour moi, l'équipe la plus impressionnante réellement du moment et qui s'adapte pratiquement au contexte, disons, climatique de la région, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a atteint sa maturité collective et tactique et qui est pratiquement une équipe solide, très impressionnante, et une équipe qui sait être patiente actuellement. Et je crois que ses adversaires auront fort à faire, surtout que l'Algérie jouera dans une zone où peut-être les affaires et Bossé et consorts la suivront, dont le public n'est pas garanti. Le Ghana a toujours eu le public, mais est-ce que l'équipe a le même ressort que dans le passé? L'Afrique du Sud monte, mais je le dis encore, la grosse citadelle, ça sera sûrement le Sénégal.
Et vous alors, qu'en pensez-vous, Élisée Mpatine?
Oui, c'est un groupe très ouvert, hein, faut le dire, puisque c'est vrai, on parle du groupe de la mort, il y a l'Algérie mondialiste, le Sénégal qui a un effectif qui peut aller très loin dans cette compétition, surtout avec un entraîneur d'expérience, Alain Giresse, hein, après avoir coché le Gabon aussi, hein, il a une certaine expérience sur le continent, et bien, je vois que le Sénégal peut titiller quand même l'Algérie, le Ghana, pour moi, c'est vrai que c'est une très bonne formation, mais attention, puisque là, il y a le Sénégal et l'Algérie, mais nous oublions surtout l'Afrique du Sud qui a éliminé le tenant du titre, surtout éliminé le tenant du titre. Donc, il faut prendre cet aspect-là au sérieux. Les Sud-Africains qui ont une très bonne équipe, qui a côtoyé quand même de très grandes formations, notamment en match amical, vainqueur de l'Espagne, 1-0, on se rappelle il y a cela quelques mois. Donc, c'est dire que l'Afrique du Sud aura son mot à dire dans ce groupe qui, pour moi, bon, l'Algérie est un peu favori par rapport aux autres formations.
Merci beaucoup, Élisée Mpatine. On va parler évidemment également du Sénégal, hein, puisque Sadio Sané, annoncé comme forfait par son entraîneur Ronald Koeman de Southampton, est arrivé hier au Maroc avec un médecin du club. C'est ce qu'a annoncé Maître Augustin Senghor. Pour le moment, en tout cas, pas de forfait pour Sadio Mané. Parlons à présent de ce groupe D, le groupe ouest-africain, on va dire. Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Cameroun, ça sent la poudre évidemment, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui étaient déjà ensemble lors des éliminatoires. Actuellement en stage à Libreville, le Mali a battu le club local du FC Apanda 2-1, c'était hier en match de préparation grâce à des buts de Seydou Keïta et Modibo Maïga. On va prendre un autre auditeur malien en ligne, il s'agit de Chokorobino Keïta, il est à Bamako, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs de l'Amérique.
Alors les Aigles du Mali qui ont eu un parcours un peu chaotique, on se souvient notamment des défaites, notamment contre l'Éthiopie ou face au Malawi, et finalement cette qualification lors de la dernière journée à Bamako contre l'Algérie. Est-ce que vous pensez que les Aigles du Mali emmenés par Henri Casper-Zac ont une chance à jouer dans cette CAN?
Oui, les éliminatoires ont été mal vus, mais je pense que la phase finale est un autre. Je pense qu'aujourd'hui, avec le capitaine Sidou Keïta et Adama Tamboura, malgré l'absence du Cheikh Tidiane Diabaté, je pense que l'attaque est soudée avec Diaby, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue belge. Je pense qu'aujourd'hui, si nous constatons le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire, je pense qu'à l'éliminatoire, ça n'a pas été trop satisfaisant. Et je pense que la Guinée aussi, il va pas la Guinée battre la Côte d'Ivoire, mais il donne un grand chapeau quand même à la Guinée. La Guinée qui n'a pas eu un seul match à domicile et qui a eu son ticket pour la CAN, je pense qu'ils ont fait de leur meilleur. Et la Cameroun aussi, vraiment, a montré qu'ils étaient meilleurs. Je pense qu'avec le Cameroun, on va essayer de s'adapter, on va essayer de travailler beaucoup pour aboutir nos objectifs d'être leader et de terminer premier du groupe et après les autres. On verra.
Eh bien, écoutez, merci Chocorobino Keita de nous avoir appelé de Bamako. Alors, Jules Valentin Gouy, notre auditeur, il est assez optimiste pour les Aigles du Mali, puisqu'il les voit terminer premier du groupe D. Mais fondamentalement, moi, j'aimerais revenir sur les Camerounais, hein, Coupe du Monde désastreuse et des éliminatoires en fanfare pour l'équipe dirigée par Volker Finke. Finalement, est-ce que l'une des équipes dont on ne parle pas assez, mais qui est peut-être favorite pour cette CAN, ce ne sont pas les Lions Indomptables?
Oui, effectivement, surtout que cette équipe joue à domicile, pratiquement à domicile, et c'est une équipe qui a retrouvé un esprit de jeu, un esprit d'équipe qui lui manquait pendant la Coupe du Monde. Les joueurs jeunes qui ont remplacé les anciens sont très motivés, ils veulent confirmer leur place, et ma foi, comme je l'ai dit, le public sera également à côté. Mais seulement, le Cameroun est, disons que nous a montré surtout de bonnes dispositions à partir de son bloc et de son jeu en contre. Il n'a jamais été mené, donc c'est ça la grosse inconnue. Est-ce que cette équipe saura réagir dans la créativité si elle est menée? Monsieur, sur trois matchs, je crois qu'elle passera le premier tour.
Et Élisée Oupatine, vous, quel est votre avis sur ces Ivoiriens? Évidemment, hein, on a suivi le parcours chaotique de ces Ivoiriens, justement qualifiés dans un match. En tout cas, voilà, on a perdu peut-être Élisée Oupatine à Boïko, donc on va revenir avec Jules Valentin. Oui, Jules Valentin, je le disais, hein, la Côte d'Ivoire, malheureusement, hein, qui nous crée des doutes avec cette qualification vraiment difficile, hein, lors du dernier match 0-0 à Abidjan, avec une passe à 10 dans les 15 dernières minutes qui a suffi pour cette qualification. Mais est-ce que l'équipe d'Hervé Renard, finalement orpheline maintenant, hein, de Didier Drogba, qui avait annoncé sa retraite internationale, est-ce que finalement vous pensez que les grandes équipes répondent toujours présents au grand rendez-vous, mais est-ce que finalement il n'y a pas des failles plus importantes dans cette équipe ivoirienne?
Je crois même que c'est ce qui va faire sa force, parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de pression. Elle ne vient pas en favorite et elle a le même effectif. Et surtout, elle a fait des matchs où elle a fait des erreurs, elle peut se corriger. Il y a un dicton qui dit que mieux vaut faire des mauvais matchs amicaux ou des matchs précédents pour mieux préparer la compétition qui arrive. Et je crois que la Côte d'Ivoire, sans cette pression, sera sûrement très dangereuse. Je la mets favorite avec le Cameroun pour cette poule, même si la Guinée est mon équipe de cœur qui peut tout bouleverser à tout moment de par son talent et le talent individuel de ses joueurs.
Et cette Guinée, hein, qui a ouvert la préparation samedi à El Jadida au Maroc par une nette victoire face à la sélection olympique marocaine 4-1. On verra ça évidemment. Je vous rappelle que le coup d'envoi de cette CAN, ce sera évidemment samedi entre le Nzalang National à Bata et les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. On va évidemment se quitter, nous sommes la VOA, on va parler évidemment des sports américains. La NBA, le championnat de basket nord-américain, Atlanta a consolidé son statut de leader de la conférence Est et d'équipe surprise du début de saison avec sa 8e victoire de suite. C'était hier face aux Wizards de Washington, le score 120-89. Et puis Cleveland a encore chuté sans LeBron James, le score 84-103. Voilà, ainsi va s'achever notre émission Sportrama, le sport, comme tous les lundis, même en 2015. On va évidemment remercier à Boïkon, c'est au Bénin, Élisée Oupatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nico et à bientôt.
Merci beaucoup. On va remercier Jules Valentin Gouy qui était à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas
Et à bientôt, surtout pour cette animation qui nous attend pour la CAN.
Et oui, la CAN qui démarre samedi. On va rappeler également l'information de la soirée. Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or 2014, désigné à Zurich. L'entraîneur de l'année, okay, c'est Joachim Löw également. Et puis, on va parler également, pour remercier tout le monde, et donner rendez-vous sur Facebook VOA Afrique ou sur notre site internet voaafrique.com. Michel Joseph était à la mise en onde. Merci à tous de nous avoir suivis. Nicolas Pineau était avec vous. On va vous souhaiter une très très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.